Retrouvez-nous sur radiojudaica.be.
Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver, nous sommes le lundi 30 août 2021, il est 20h et comme tous les lundis, on joue la prolongation.
Un salaud,
c'est Monsieur Foot. Bonsoir à toutes et à tous. Retour donc dont joue la prolongation sur Radio Judaïca 90.2 FM, radiojudaïca.be. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle heure et demie d'actualité sportive, d'actualité footballistique. Ce soir, autour de moi, j'ai deux consultants de rêve. Le premier, il est à ma gauche, vous le connaissez. Blaise van der Linden, bonsoir Blaise, comment ça va ?
Bonsoir à tous, bonsoir Samuel, bonsoir Henri. Depuis le 11 juillet, je n'étais pas revenu. Je suis très heureux d'être entouré de vous.
Eh ben écoute, on est très très content aussi que tu sois là. On va pouvoir parler de foot européen, de l'Olympique de Marseille aussi, de un petit peu de tout. On a un riche programme. Comment ?
Je croyais qu'on parlait foot.
On va parler. Si j'étais toi, Henri, je la ramènerais pas trop, car notre deuxième consultant de choc, ta-da-ta-da, il est là, il est mauve.
Un vieil hymne,
mais un hymne qui marchait à l'époque, hein, ça gagnait.
Ouais, à l'époque ça marchait, je sais pas, l'élastique a lâché. Je sais. On a perdu le mode d'emploi, je pense.
Voilà, et Henri, Daniel, bien sûr, le bonjour supporter d'Anderlecht.
Très content de vous retrouver.
Eh ben écoutez, on est tous très très contents d'être là. On a un beau programme aujourd'hui. On va parler tout d'abord de Jupiler League, bien sûr, avec des résultats assez surprenants ce week-end. Une équipe de l'Union qui continue de voguer en tête du classement, d'offrir un beau jeu et de surprendre. Et des Cadors qui ont eu un week-end pour le moins compliqué, puisque les trois très gros clubs historiques, le club de Bruges, Anderlecht, le Standard, sont tous tombés, chacun d'une manière un peu différente. On reviendra là-dessus. Ensuite, on abordera un volet Diable Rouge, puisque cette semaine, c'est relâche dans le championnat et on va jouer trois matchs avec l'équipe nationale, des matchs qui valent pour les qualifications à la Coupe du Monde 2022. On parlera du programme. On se demandera aussi si Martinez a-t-il toujours le collier d'immunité, comme on dit dans une émission célèbre de TF1. Ensuite, on passera, après les Diables Rouges, on fera notre tour d'Europe. On s'intéressera au début de Dieu en personne, de Lionel Messi, qui a débarqué, posé le pied sur la planète football français. C'était au stade Raymond Coppa hier et on s'intéressera un peu à ça. On verra aussi ce qui se passe au niveau du mercato avec quelques...
Ou
ce qui se passe pas, effectivement, puisqu'il y avait des dossiers chauds, notamment Kylian Mbappé, dont on peut vous dire d'ores et déjà, enfin, d'après ce qui se dit, que le Real Madrid aurait abandonné les négociations pour le recruter. Et enfin, on terminera avec l'Angleterre, parce que cette année, on se demande si on n'a pas droit au championnat le plus excitant depuis très longtemps. Toutes les équipes se sont, semble-t-il, renforcées. Qu'est-ce que ça va donner ? On va s'intéresser à ça. Mais avant toute chose, il faut bien évidemment un coup d'envoi. Je vous propose donc qu'on démarre avec la Jupiler Pro League, la Gantoise qui recevait le champion, le club de Bruges. Et alors là, ça a été... L'US Open commence aujourd'hui. Il y a eu un match... Ça a été en prévision de l'US Open. La Gantoise a infligé une correction à Bruges. 6 buts à 1, 3-0 à la mi-temps. Des approximations un petit peu partout pour le FC Bruges. Ils sont pris un quatrième, ils sont revenus à 4-1 et ils ont cédé encore deux fois en fin de match pour finir à 6-1. Qui veut commencer?
C'est assez fou ce qu'on a vécu quand même sur la pelouse de la Gantoise hier après-midi.
Quel non-match.
Mais vraiment dans tous les compartiments du jeu. Quand on voit par exemple que ce soit, mais bon, c'était la fin, donc à la limite on peut l'excuser, le but sur la passe en retrait, le contrôle raté de Mignolet. Mais tout au long du match, on a eu des passes ratées par des joueurs comme Vormer, Van Aken, qui sont habitués à mettre des passes dans les pieds 95% du temps, des contrôles ratés. Enfin, c'était vraiment, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de ces joueurs, mais ils étaient pas là. C'était un non-match, comme tu l'as dit, Henri.
C'est incroyable, vraiment incroyable. Je sais pas quel est le signe indien qu'ils ont transgressé, mais c'était
parce que puni par les Buffalo.
Exactement, c'était un peu ça l'idée. Mais les Buffalo n'ont pas ni bien ni mal joué, j'ai l'impression. Simplement, chaque action était arrivée au bout.
Oui, c'est ça. Parce que, et aussi, quand on voit le but de Bouzos, où il.
Bezus,
pardon. qui c'est la rentrée.
Ouais, tout le monde.
quand il fait toute la défense, il a une chance, mais incroyable.
Ouais, c'est
pour
vrai
ça que le joueur qui passe. Et puis, t'as le défenseur qui tombe là, qui arrive encore à toucher la balle du dos, et puis t'as la balle qui lui revient dans les pieds. Enfin, c'est vraiment de la chance partout sur ce but-là. Donc, il y avait vraiment. Tout qui allait dans le sens de Gand.
Mais je pense qu'on est parti dans une dynamique négative comme ça.
Ouais, c'est vrai que ça.
Van Azenbroek a dit un truc intéressant avant le match. Il a dit ce qui était révélateur, c'est que les joueurs avant le match y croyaient. Et je pense qu'on rentre aussi sur le terrain avec un état d'esprit en se disant c'est possible, c'est une équipe qui est championne de Belgique, qui fait des points en Champions League, mais on peut le faire. Et ils sont arrivés sur le terrain en se disant
Oui, pourquoi pas. Et puis c'est vrai qu'ils ont eu, comme tu le disais Blaise, de la réussite, beaucoup de réussite. Il y a un début, c'est Mata qui essaye de couper sur une longue transversale. Il essaye de couper, il la repousse sur un de ses défenseurs, un coéquipier. Du coup, elle arrive parfaitement dans les pieds.
Je crois que c'est le jeune défenseur plutôt.
Non, je crois que c'était Mata, l'arrière droit. Mais c'est vrai que le jeune défenseur, alors lui, ça n'a pas été un cadeau. Ouais, 16 ans, hein, il a 16 ans, il faut déjà être costaud pour jouer cela. Est-ce qu'il était bien dans un bon positionnement? La question s'est posée. Philippe Clément n'a pas été. A pas voulu, c'est normal, il a pas voulu l'accabler plus que ça, mais bon, il a concédé, il y a quelques buts qui sont venus de son côté en tout cas.
Dites-vous, il est quand même né en 2005.
Ouais, le garçon, janvier 2005, c'est fou.
Peur,
ah oui, c'est.
Moi, j'ai l'impression que quand ça va pas. Il y a pas d'explication à trouver.
Oui, non, c'est vrai que tout.
Les joueurs, comme tu disais, Vormer, Van Aken qui rate des contrôles, des passes faciles, c'est même Mata qui rate des contrôles. Et Mignolet, que dire de Mignolet, quoi, qui prend un but casquette.
Il prend un but casquette.
À la fin du match, quand on sait déjà que ça.
Oui, puis il est pas. Enfin, pour le coup, je l'enfoncerai pas non plus complètement parce que c'est Mekele qui fait la passe, je crois.
Ouais, mais
il lui envoie un missile sans regarder.
Il regarde pas. Il envoie une balle qui est à mi-sol, qui décolle et qui rebondit juste devant le pied de Mignolet.
D'ailleurs, je me demande si le but lui a été accordé à Mignolet, c'est qu'il doit la toucher, mais c'est vrai que c'est pas clair.
Il l'effleure, parce qu'elle rebondit vraiment devant son pied, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est un poison la passe de Mekele.
À part ça, moi, je suis d'avis de dire que quand c'est un off day, autant que ça soit tout le même jour, quoi.
Oui, c'est vrai.
Ouais, là ils ont tous fait leur erreur, c'est bon, c'est pour la saison, c'est fini quoi.
C'est vrai. L'autre vaut mieux qu'il pleuve un jour où il fait moche plutôt qu'un jour où il fait beau.
C'est vrai. Ça c'est vrai, c'est très. Ça s'applique assez bien d'ailleurs.
Je ferai pas mieux aujourd'hui,
ici.
Je pense.
Ce sera ta meilleure
Merci,
de la journée.
Salut Henri.
Non mais c'est vrai.
Non mais c'est affreux, je crois qu'à vivre sur le terrain, c'est. Tu te dis, il faut que le calvaire s'arrête quoi. En plus, on se rend pas bien compte, nous, du côté francophone de la.
La frontière,
c'est un derby des Flandres qui a un enjeu entre les supporters qui est assez important.
Mais on voyait même à un moment Van Azenbroek qui en croyait pas, qui se demandait mais qu'est-ce qui est en train de se passer
sur le terrain. On voit son assistant au moment du quatrième goal qui dit 4-4.
Oui,
qui
lui dit c'est quatrième. Enfin, c'est fou quoi.
On voit d'ailleurs sur le but encaissé par Mignolet sur le dernier. On sent qu'il a plus le cœur tellement à exploser. Il a gagné, mais voilà, on va pas les enfoncer non plus parce que.
Je pense qu'à un moment il y a du respect aussi.
Oui. Et est-ce que Clément a pas fait une erreur? Bon, on n'est pas à sa place, mais on est là pour poser les questions et critiquer un petit peu en jouant avec trois défenseurs dans l'axe
et pas de pointe surtout.
Ouais, enfin, et pas de pointe. Ça lui réussit plutôt depuis le début de saison, mais voilà, un jour sans même pour De Ketelaere et Noah Lang. Et puis surtout, voilà, avoir mis jouer à trois derrière avec ce jeune Bamba, il me semble. C'est vrai que c'était compliqué pour lui. Il l'a sorti à la mi-temps.
C'est comme tous les paris, s'il gagne.
Ouais, c'est vrai. On dit que c'est génial, mais
je pense que c'est la preuve que c'est un sport collectif, que c'est vraiment une. On ne peut pas pointer l'un joueur ou un jour un autre. Je pense que c'est vraiment collectivement que ça a sombré. Et là, c'était la démonstration parfaite quoi, du match, du truc à ne pas faire. Quoi. Mais à mon avis, ils feront plus. Ça n'a pas arrivé souvent cette
oui,
saison.
Oui, oui, c'est ça. C'est leur, grosse déroute de la saison. Et puis, ils vont sûrement perdre des points encore en route. Mais...
Après, le mérite revient à Gand, quand même, qui a continué à jouer avec le respect.
Ouais. Et puis, c'est vrai qu'ils prennent. Alors, je ne pense pas qu'ils seraient. Enfin, ça paraissait un peu illusoire. Ils sont revenus à 4-1 à la 65e minute, mais quand on sait la machine que peut être Bruges parfois, bon, ils ont réussi.
Ils pouvaient très bien en mettre 3.
Voilà, ils pouvaient revenir.
Bruges aurait pu.
Ouais. Et la Gantoise les a éteints tout de suite, puisqu'ils ont marqué un but dans la minute. J'ai un supporter brugeois, Didier Cohn, pour pas le nommer, qui m'a dit en fait, tout ça était pensé à l'avance, c'est pour endormir l'histoire et pour que le Paris Saint-Germain et Manchester City
ils vont pas se méfier, ils vont avoir peur du réveil de la bête.
Rappelons que Bruges va avoir des rendez-vous européens excitants mais compliqués. Et donc c'est vrai que ça fait bizarre de les voir prendre une correction. Ouais, des belles affiches.
Le troisième c'était Leipzig.
Leipzig. Non, ils ont un groupe très très compliqué. Mais c'est vrai que c'était étonnant de les voir prendre une correction pareille. Bon, ils sont troisième du championnat quand même. Ils restent à un point.
Il n'y a pas à s'affoler.
Non, voilà, s'il y a une équipe, un des grands ténors du championnat pour qui on ne doit pas trop s'inquiéter, malgré le score, c'est Bruges. Je pense que les choses rentreront dans l'ordre.
J'ai encore une citation, c'est mieux de prendre un 6-1 que 6 fois 1.
Exactement, voilà. Je le fais parfois avec l'accent de Roland Courbis.
C'est de là que ça vient. C'est
voilà.
Désolé de te paraphraser.
Non, mais Didier lui-même me disait que c'était pas uniquement de Roland Courbis que ça venait, mais il se souvenait plus, mais je crois qu'à Malines, il y a une trentaine d'années, il y avait eu une phrase similaire, mais enfin, c'est vrai que ça fait partie des...
Je pense que c'est César qui l'a dit en premier. Rendons à César.
Puis ça a été repris chaque dizaine d'années.
Voilà.
Par un grand homme de sa génération, dont Roland Courbis.
Dont Roland Courbis, bien sûr. Donc Bruges, voilà, c'était le résultat étonnant. Il a fait rentrer du coup Bas Dost effectivement à la mi-temps en essayant d'apporter de l'âme, d'apporter surtout une solution offensive supplémentaire. Ça a pas fonctionné, c'est le moins qu'on puisse dire, mais voilà, c'est vrai que quand ça va pas, ça va pas.
Je pense que c'est tellement énorme qu'on peut pas tout remettre en question.
Non, c'est vrai que c'est...
Ni la tactique, ni la composition, mm-hmm. ni le...
Oui.
L'approche. Je pense que c'était tellement... catastrophique comme match qu'il y a pas
grand chose. C'est un non-match, tu l'as dit au tout début, c'est un non-match, ils n'y étaient pas, quoi.
C'est étonnant, mais voilà. Écoute,
je pense que et Clément, et Van Aken, et Vormer ont assez d'expérience pour se rendre compte qu'on peut tourner la page et passer à autre chose.
Ouais, j'aimerais pas
ils ont déjà eu des victoires. Si ça arrive à un club qui n'a jamais de victoire, il peut se poser des questions.
Ouais.
Je parle d'un club mauve, par exemple, avec une nouvelle...
Ou rouge, ouais.
Mais Bruges, c'est qu'ils sont capables de gagner, ils sont capables d'être champions deux fois de suite. Ils sont capables de prendre des points en Champions League avec la même équipe. Donc je pense qu'il n'y a pas de quoi paniquer. Il faut juste bien analyser ça et que ça ne se reproduise pas.
Oui, c'est ça. Parce que, comme tu l'as dit, c'est la même équipe. Il n'y a personne qui est parti, personne qui est arrivé. C'est vraiment le même 11 de base. Ne serait-ce le Mbamba qui était titulaire, qui n'était pas là l'an dernier. Mais sinon, quand tu regardes le 11 de base sur le terrain, on a fait la comparaison avec un club mauve. Ouais. C'est la même équipe. On connaît les 11 joueurs. Enfin, à Anderlecht, on connaît personne. Enfin...
J'ai fait la démonstration la semaine passée avec Anderlecht. Donc, le premier match de championnat d'Anderlecht, il y a 2 ans, sous l'air compagnie. Et la composition de l'équipe du premier match de cette saison-ci contre l'Union, il y avait un seul joueur, qui était Yari Vorskar. On parlait de construction.
Le prochain match, c'est le vendredi 10, face à Ostende, à domicile. Au Jan Breiden Stadium. J'aimerais pas être à la place d'Ostende. À mon avis, ils vont dérouiller. Ils vont.
La Champions League, c'est quand?
La Champions League, c'est le mardi d'après, ouais. Donc.
14 voilà. Et 15 septembre, si je ne me trompe pas.
C'est ça. Donc voilà, écoutez, Bruges, ça arrive.
C'est tellement énorme qu'on n'a pas envie de taper dessus, je trouve.
Non, ça leur arrivera sans doute pas bien souvent cette saison. Je crois que la dernière fois qu'ils avaient pris un score pareil, c'était il y a 7 ou 8 ans. Donc,
oui, bon. Je crois que c'est jamais arrivé à Gand, surtout.
Ouais.
De s'imposer aussi largement contre Bruges dans un...
Je pense que ça va rester
ouais, c'est historique. Eux,
pour eux, bon, je crois qu'ils vont l'imprimer en grand à l'entrée de l'histoire.
Ouais, c'est ça. Bon, les Blauwenzwart seront quand même là à la fin de la saison, malgré ce petit accro. Comme je le disais, ils sont troisième, ils ont un point de retard seulement sur le leader. Donc tout va bien, et malgré cette fessée, 5 buts concédés, il reste avec une différence de buts positive.
6 buts concédés.
Comment ?
6.
Ils en ont concédé 6, oui, mais une différence de buts de 5, puisqu'ils en ont inscrit 1. Mais ils ont toujours une différence de buts positive 1. Venons-en à un autre club, tu parlais des Mauves justement, bah très bien. Genk recevait Anderlecht, et là ça... C'est un petit
c'est
peu...
C'est pas la même histoire.
C'est pas la même histoire, mais... Bon, on revoit le résultat, on se dit c'est encore une fois une nouvelle défaite pour Anderlecht, et quand on regarde le match en profondeur, en l'analyse un petit peu plus en profondeur, on se dit que finalement ils sont extrêmement mal payés. Alors il y a deux choses qui sont assez contradictoires. D'un côté, je sais pas ce que tu en penses, Henri, mais ils ont semblé avoir une assez bonne maîtrise du match,
ils ont très bien démarré.
Et ouais, ils ont avoir la possibilité même de se créer beaucoup d'occasions, mais à côté de ça, ils ont pas cadré une seule fois. Rappelons qu'ils ont tiré tout de même deux fois sur le cadre, voilà. Tiré deux fois sur le cadre, mais
un défenseur.
Ouais, le petit, j'allais dire le petit nouveau petit s'impose pas vu la taille du bonhomme. Mais voilà, c'est un match un peu bizarre, frustrant, sans doute très frustrant pour les joueurs et compagnie, parce que finalement, ça paraît idiot, mais à part le but, il manquait rien. Mais c'est quand même l'essentiel. Mais ils ont produit un jeu intéressant. Qu'est-ce que tu en penses, toi, le fan mauve ?
Mais je suis moins inquiet en voyant ça qu'en voyant le match contre Vitesse, par exemple.
Oui.
Qui était un match qu'ils devaient gagner. C'est le match de la saison. Ils ont fait. Enfin, ils s'étaient mis en difficulté au match aller en prenant 4 goals à la maison, en ratant un pénalty à la dernière minute. Ils savaient qu'ils avaient un match. Sur la saison à ne pas perdre. Ils prennent un goal après une minute, c'était assez étonnant. Moi, ce que je trouvais positif, c'est que... Enfin, positif. Moi, j'aime bien la stabilité. J'aurais bien aimé qu'il y ait une structure, une ossature de base qui soit la main, avec éventuellement 2-3 changements. Mais là, je trouve que l'ossature change chaque fois.
Ouais.
Cette fois-ci, elle a l'air d'avoir fonctionné. Il a remis à Itelage dans le jeu qui a saisi sa chance.
Rafaelov, je crois, aussi, a fait un beau match.
Rafaelov, par exemple, à Vitesse,
ouais,
il était plutôt absent.
Ouais, il
et alors, ce qui est plus inquiétant, c'est Zirkzee.
Ouais,
en termes d'implication, je ne parle pas de talent pur, mais je trouvais qu'en termes d'implication, il était un peu, je trouve, léger quand Kwame, qui est la nouvelle recrue, est monté, on a vu la différence.
Ouais, il avait l'air beau.
En termes d'impact. Maintenant, le match... Je sais que le discours est souvent politiquement correct de la part de compagnie, mais je trouve que là, il avait.
Oui, c'est vrai.
Crédible cette fois-ci.
C'est vrai.
Disons que franchement, il n'y avait pas grand-chose à reprocher, si ce n'est pas marquer de goal. Quoi.
Pas marqué, mais c'est vrai qu'ils ont trouvé les failles dans la défense adverse, dans la défense de Genk. Je pense notamment à un joueur qui a pas mal gâché, c'est Raman devant.
Il y en a deux où il dévisse complètement ses frappes, ou bien il fait un contrôle de trop, alors qu'il est seul face au gardien.
C'est ça, il y en a une sur la gauche où il dévisse, et puis il y en a une très belle passe de Rafaelov qui coupe, qui transperce un peu la défense. Et
fameuse passe laser.
La passe Ligue des Champions, celle qui est...
Raman, depuis le début de la saison, il cadre pas trop, il a des occasions, il marque pas tellement, il en a mis deux contre Vitesse, mais enfin il avait juste à les pousser dedans.
Ouais.
Mais évidemment, il compense. Donc, il rate pas son match parce qu'à côté de ça, il est super généreux dans l'effort. Et je trouve comme complément, comme deuxième attaquant, on n'avait pas eu ça depuis longtemps. Quelqu'un qui se bouge autant,
qui tourne
autour d'un vrai neuf. Et c'est pour ça que je trouve que Zirkzee, peut-être il a le talent pour, mais en tout cas pour l'instant, il l'a pas montré dans ce rôle-là d'être percutant, en fait.
Et défensivement, Anderlecht c'est plutôt bien sorti de la tâche qui était face à eux, puisqu'ils ont quand même Onoachu, Bonganda, Ito, enfin une grosse attaque.
Meilleur trio de l'année dernière en Pro League. et ils n'ont pas concédé autant d'occasions que ça. Hein. Ono Achu, il a été quasi transparent. Ito, il a eu quelques occasions, mais ça n'a pas été très tranchant. Et Bongonda, pareil, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup.
Il y a un arrêt de Van Kronbrugge.
Oui, il y a un arrêt. Il y a un arrêt.
Sur un match entier,
ouais,
c'est pas.
Ouais, c'est très peu. C'est très peu. Et c'est sur la tête de Bongonda, je pense, à la 80e minute. Oui. Un truc comme ça. Et donc, défensivement, ils s'en sont bien sortis, visiblement. Mais devant, ça.
Je pense que c'est pas le plus mauvais match d'Anderlecht, loin de là. Et contre un adversaire qui, quand même. Un fameux candidat.
Bah oui, ouais, ouais. Qui finit deuxième l'an dernier.
Et qui joue au foot.
En plus.
Et alors, il y a justement, on parlait de la Taylor Harwood Bellis. C'est le jeune anglais qui a été prêté par City, qui s'en est plutôt très très bien sorti face à Ono Achu. C'est deux énormes gabarits. Il l'a parfaitement tenu. On le disait, c'est lui-même qui a tiré deux fois.
Une fois sur le poteau.
Donc
il était présent devant.
Il était présent devant. Il y aura un problème en défense. C'est Hannes Delcroix qui s'est blessé. Ça risque d'être assez long.
Et Cobot qui est parti.
Cobot qui est parti. On parle de l'arrivée de, j'allais dire Magellan. Il s'appelle pas Magellan, mais Magallan de l'Ajax, argentin qui est venu il y a 2 ans de Boca Juniors. Acheté pour 9 ou 10 millions d'euros. Je crois que c'était un des transferts les plus onéreux de l'Ajax en défense, qui ne s'est pas trop adapté.
Est-ce que malgré l'élimination en Coupe d'Europe, ils vont quand même investir?
Ils ont quand même intérêt. Enfin, je ne sais pas s'il manque...
Est-ce qu'il y a de l'argent?
D'argent, il n'y a pas, mais il n'y a jamais eu.
Ouais. Bon, cela dit, ils réussissent à faire des montages, avec des prêts, des choses comme ça. Mais c'est vrai que si vous n'avez plus Hannes Delcroix, ça fait...
Mais il parle d'un départ de très belle à la Gantoise. Hein.
Ah. Ça, serait...
ça libérerait quand même une masse salariale.
Ouais, non négligeable. Donc voilà, il y a
tout n'est pas pourri dans le monde des mauves. Hein,
mais... Non, c'est vrai que le.
Mais bon, je pense que vraiment, le gros coup sur la tête, c'est l'élimination en Coupe d'Europe. Ça,
Trust the process.
Ouais, mais j'avoue que j'en fais partie, mais quel crédit il a quand même, compagnie, parce qu'avec des résultats comme ça sur 3 ans.
C'est quand même c'est beaucoup. Il y en a beaucoup qui auraient sauté.
Van den Brom a sauté depuis longtemps. Bien
ouais. Van Azebroek a sauté aussi. Enfin, il y en a beaucoup qui ont sauté pour beaucoup moins que ça.
Même
quoi.
Le Suisse, comment il s'appelait, René
René Weiler.
Weiler aussi.
Mm-hmm. Ah, pareil, lui, il est champion. Il se fait virer juste après.
Ah, c'est vrai qu'il a. Je parlais de collier d'immunité. C'est lui, il l'a.
Lui, il l'a, c'est sûr. Est-ce que c'est parce qu'il amène des investisseurs?
Ben justement, je me posais la question de savoir est-ce qu'il a même pas des propres sous à lui dans ce club, parce que ça commence à
pas officiellement en tout cas.
Pas officiellement, oui, mais.
Mais déjà les partenariats qu'il a avec City.
Oui, c'est ça. Voilà, il a ramené beaucoup de trucs quand même.
Puis sur son nom, il y a des gens qui viennent. Hein.
En plus, et pas que des joueurs, sûrement des investisseurs, sûrement des. Enfin.
Tu dis un jeune Hollandais qui est acheté par le Bayern vient faire une saison. Dans l'équipe de René Weiler, il ne viendra pas, tu y viens dans l'équipe de compagnie.
Oui, bien sûr.
Oui, c'est certain que ça doit être c'est un pôle d'attraction fort. Et il a usé de ça pour se faire prêter. Alors, il a très certainement des liens privilégiés avec Manchester City. L'année dernière, c'était Lucas Nmecha. Cette année, c'est Harwood Bellis, mais effectivement...
Il réussit aussi à
l'année
faire...
L'année d'avant, c'était Sanders, qui s'était blessé, mais qui était un bon joueur.
C'était vraiment pas un succès, mais c'était un coup à essayer. Il a été chercher Nasri aussi, bien qui sûr. Est venu uniquement pour son pote compagnie. Ouais. Enfin, c'est... Il a eu le mérite de ramener des choses et d'avoir essayé des choses, maintenant...
Il vient de coacher son 50e match. Il a, je crois, si je dis pas de bêtises, il a 11 défaites, 18 nuls... Non, 18 défaites, 11 défaites, 11 nuls, un truc comme ça.
Bon, c'est pas
un bilan très très mitigé.
Ouais, mais c'est vrai qu'il a la.
Mais il a un crédit, il a le collier, hein, il a le collanteur.
Voilà, il a un gros crédit, et tant mieux si. Voilà, tant que les supporters d'Anderlecht ne sont pas furieux.
Ce que j'ai vu à Genk devrait suffire pour le championnat belge, hein, pour être top 6. Enfin, non, c'est top 4 de nouveau.
Ouais, top 4. Ouais. Ouais.
Mais il faut se réveiller là, maintenant c'est bon.
Oui, ils sont quand même un peu renforcés. Verskar n'a pas joué.
Non mais Eladj est revenu.
Eladj fait un bon match.
Ouais, je pense que son séjour sur le banc lui a fait du bien, je pense.
Ouais, on dit qu'il est revenu un petit peu en méforme, parce que en méforme c'est avec quelques kilos en trop de ses vacances à Eladj. En tout cas il est revenu. Ça va être une saison.
C'est dommage de perdre avant la trêve quand il y a une coupure comme ça.
Ouais,
Mais ouais, encore surtout une fois que ça s'enchaîne avec la défaite en Coupe d'Europe, ça fait un bon gros coup sur le moral, quoi.
Ouais, c'est deux défaites en quelques jours, mais effectivement la deuxième est quand même a rien à voir avec la première sur au niveau du contenu, et ça permettra sans doute à Compagnie de relancer la machine.
Je ne peux qu'espérer.
Le prochain match d'Anderlecht, je vous dis ça tout de suite, ce sera face à Malines, dimanche 12. Voilà, une occasion de prendre des points.
Comme disait Steve, Anderlecht est devenu une équipe moyenne, donc tous les matchs sont importants.
Tous les matchs sont importants, c'est vrai. Puisque tu parles de Steve, qu'on salue, on va passer à la troisième grosse affiche. L'Union recevait le Standard. Victoire 4-0 des unionistes, triplé de Dante Vanzer. Autant Bruges, c'est l'accident, autant Anderlecht, ça a plutôt été bien, mais il a manqué quelque chose.
Standard, ça se répète.
Autant, ouais, le Standard, c'est très inquiétant.
C'est fou ce qui s'est passé. Enfin, moi, j'étais au stade et vraiment, je regardais un peu les joueurs du Standard et j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas envie d'être là, en fait. Juste, ils venaient le samedi soir, ça les embêtait. Ils étaient sur une pelouse et ils se sont laissés. On aurait dit une équipe de, je sais pas, de U14 contre une équipe pro, quoi. Enfin, c'était pas du tout normal. Il y en avait aucun qui allait. Et puis, ils étaient tous perdus. Il y en avait aucun qui allait au duel. Enfin, après, je sais pas si c'est l'Union qui les a énormément fait déjouer et où ils étaient pas du tout préparés à ça, mais je peux pas y croire. Je peux pas y croire. Vu le début de saison de l'Union, c'est sûr que le Standard était au courant de ce qui allait se passer. Ouais. Ils étaient prévenus que c'est une équipe qui rentre dedans, qui a pas peur d'un grand nom comme le Standard.
La vitesse, c'était incroyable.
Ils jouaient
pas la même vitesse.
C'est ça. Et t'avais l'impression que le Standard, comme je dis, t'avais l'impression que c'était des petits contre des grands qui jouaient au ralenti contre.
Il y a une action qui se passe sur le côté gauche de l'Union, sur le côté droit du truc, avec Lapoussin qui fait un petit crochet. Qui passe à.
Le gars avec son masque, là.
Qui fait une feinte.
Ça va à une vitesse.
Et t'as le défenseur du Standard qui est là, qui se retourne et qui est complètement perdu. C'était assez impressionnant. Et je vous assure qu'en vrai, c'était encore plus impressionnant que ce qu'on peut voir à la télé parce que. Ouais, t'avais l'impression qu'ils jouaient pas au même stade. En fait, t'avais l'impression que l'Union, ils avaient appuyé sur le x2 quand t'accélères sur les vidéos, quoi.
Je trouve ça vraiment bien plus inquiétant que ce qu'on avait avec Bruges, quoi. Bruges, c'était un match où ils sont passés à côté. Là, ils étaient pas là, pas impliqués, pas. Est-ce que Ley est responsable? Je sais pas.
Bah, quand même.
Tactiquement, il
change deux ou trois joueurs face au début de la saison où ils ont engrangé un petit peu de points. Et il se prend un 4-0 et puis j'avais l'impression qu'il était sans solution. Il fait rentrer deux ou trois personnes à la mi-temps. En tout cas, Faye et le numéro 7, je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus. Et en fait, ils n'ont rien apporté non plus. Et Klaus, qui l'année dernière avait fait quelques très bons matchs en arrivant, après il s'était un peu éteint. En fait, ça a l'air d'être une pipe, ce mec. Très clairement dit.
Donc le Brésilien Joao Klaus.
C'est vrai, moi j'ai l'impression que l'an passé, il y avait eu ce début de championnat très compliqué pour le Standard, l'arrivée de Mbaye qui avait suscité pas mal d'espoir et même
pas
si
longtemps,
qui a
pas
longtemps, mais électrochoc.
Voilà, le petit électrochoc. Mais là, quand on regarde le tableau des transferts, il n'y a personne qui est arrivé dans cette équipe et il n'y a eu que des départs.
Il y a un Denoum, là, apparemment, qui aurait pas mal de talent.
Ouais, mais bon, quand vous perdez, même si...
Mehdi Carcella, il n'est plus dans le groupe. Hein.
Voilà. Van Huysden,
mais il n'a pas joué la saison passée non plus. Donc.
C'est vrai, Balikwisha n'est plus là. Avenatti, bon. Mais il n'y a personne qui est arrivé, donc quand il n'y a plus d'électrochoc, que ça ne joue pas très bien. Cela dit, ils ont réussi à faire 10 points quand même en 5 matchs jusque-là.
Oui, parce que leur début de saison, ce n'est pas catastrophique non plus. Ce match-là est catastrophique.
À l'Antwerp, ils en prennent 5. Hein.
Ça fait deux fois dans la saison qu'ils prennent des valises.
Ouais, mais bon, enfin, quand tu regardes ces deux matchs-là, tu peux te dire qu'ils s'en sont pris 5 à tous les matchs, tu vois.
Mais ce que je trouve inquiétant, c'était la facilité avec laquelle l'Union a marqué. Quoi.
Bien sûr.
Et en plus, pour le premier goal, c'est un coup franc qui revient dans les pieds d'Olsen, là, qui envoie une patate.
Ouais, Nielsen,
pardon.
Les trois buts de Van Zer,
c'est chez nous.
Les trois buts de Van Zer, c'est trois fois les mêmes buts. Il est tout
c'est
seul incroyable. Au deuxième poteau. Il a juste à pousser la balle dans le but.
Enfin, c'est pas que c'est un demi qui monte ou un défenseur qui monte, c'est l'attaquant de pointe.
Et il est seul au deuxième poteau.
On le sait, pourtant.
Même nous, on le sait.
Nous, on le sait. Et c'est vrai qu'il a été.
Puis quand on a mis un, on le sait. Puis quand on a mis le deuxième, on le sait aussi.
Le troisième, il faut le regarder. Mais ah non, c'est impressionnant, c'est inquiétant.
Je trouve ça plus inquiétant que Bruges, vraiment largement.
Ouais. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va advenir de. Est-ce que Mbaye, lui, contrairement à Vincent Kompany, a sans doute pas un crédit aussi illimité.
Mais de toute manière, tu l'as dit, on peut changer autant de fois d'entraîneur qu'on veut, ça va marcher sur 2-3 matchs avec cet électrochoc, mais avec cet effectif, personne ne peut rien faire. T'as des mecs qui savent pas jouer au foot dans cette équipe. Je suis désolé, mais qui savent jouer au foot, mais qui n'ont pas le niveau du standard. Et donc, très bien, alors on accepte que le standard n'a pas le niveau que le standard mérite. Mais il y a des mecs dans cette équipe qui n'ont pas le niveau du standard. Et c'est pas possible d'aligner des gars dans le 11 qui produisent une prestation comme celle qu'on a vécue samedi soir.
Ouais. Le joueur qui est normalement censé le plus représenter le standard, c'est Raskin qui est sorti à la mi-temps.
Ouais, et il était au début de la première mi-temps, j'étais avec mon frère qui connaît pas hyper bien le foot et je lui dis regarde le 26, il est super fort. Il est sorti à la mi-temps, il a fait n'importe quoi. Moi je lui en veux même pas, c'est que sur la première mi-temps qu'il a joué, j'avais l'impression que c'est lui qui allait chercher tous les ballons, que ce soit à droite, à gauche, au milieu. Et c'est lui qui allait chercher les ballons et qui devait en plus les distribuer. Et ça, c'est pas possible.
Ça fait beaucoup,
Amala, il fait un match catastrophique, il envoie des ballons dans les tribunes. Enfin, c'est...
Bastien non plus.
Enfin, c'est...
Et même Gavory qui a pris.
Gavory catastrophique.
Mais est-ce qu'il a déjà fait vraiment un vrai bon match?
Ça, il faudrait demander à Steve qui regarde tous les matchs. Parce que...
ouais, mais là, c'est vrai que ça fait...
Ça fait beaucoup de joueurs qu'on a réussi à citer qui ont fait des matchs catastrophiques quand même. Là.
Parce que l'Union joue quand même avec la même équipe qui jouait en D1B.
Bien sûr.
Je veux dire, c'est la force du groupe évidemment, mm-hmm. d'un coach qui est probablement le plus malin de la D1B, D1A.
Ouais. Et un duo d'attaque,
qui fonctionne
bien, Undav et Vanzer.
A priori, c'est pas des noms ronflants.
Non. Mais...
Ils ont fait venir Avenatti qui est sur le banc par exemple.
Ouais. Non, c'est une... Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de l'Union? Bon, on se répète un peu chaque semaine parce qu'on est à dire que c'est un vent de fraîcheur, que ça joue
avant
bien.
Avant les voir jouer, on a capital sympathie, puis après les avoir vus, on a toujours le même capital sympathie.
C'est ça. Et c'est vrai que quand on voit les actions qu'ils ont produites...
Je dis pas ça parce que le standard a perdu. Hein.
Ouais.
Faut toujours faire attention avec les clubs qui montent et qui font un début de saison canon comme ça. Enfin, on sait très bien que la saison, elle se joue à partir du mois de février, où c'est là où on va voir vraiment s'ils ont tenu. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est assez impressionnant. Quoi.
Ouais, c'est vraiment plaisant à voir jouer. Hein.
Ils sont premiers quand même.
C'est pas volé. Hein.
Ah non,
non, non,
pas volé.
Je pense qu'ils ont la chance d'avoir un entraîneur qui avait déjà d'expérience dans D1A. Ça change beaucoup. Quand le OHL est monté, bon, ils ont eu un enchaînement de résultats un peu surprenant, même pour eux-mêmes. Puis ils sont rentrés dans le rang assez vite, finalement, parce qu'ils étaient même pas... On les voyait, les prédictions qu'on se faisait même ici en studio, c'était de les mettre dans le P4. Ils n'y étaient pas.
Ils n'étaient pas.
Berscott, pareil. Et cette année, Berscott Ram.
Ouais, le Berscott.
Mais ce qui est aussi assez impressionnant dans cette équipe, c'est la force du groupe, en fait. La cohésion que ce groupe a. C'est assez impressionnant. T'as l'impression de voir 23 mecs qui sont meilleurs potes, quoi. Je ne sais pas comment ça se passe dans le vestiaire, hein, mais.
Ouais,
évidemment qu'il doit y avoir des petites frictions, parce que dans tous les vestiaires de foot, il y a des frictions. Mais quand tu les vois communier avec le public à la fin des matchs.
Justement, alors comment était l'ambiance elle est...
bah, c'était pas mal. Hein, c'était pas... Bon, après, moi, c'était mon premier match en D1A. J'avais déjà été beaucoup de fois en D1B. Là, c'était mon premier match en D1A.
Et tu as bien joué.
Ah, écoute, j'étais sur mon côté droit, là, je fais des ravages. c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Après, j'ai pas vu visuellement parce que j'étais dans la tribune d'eau au parc.
Ouais.
Enfin, au parc du Den.
Du Den, ouais.
Mais donc j'ai pas vu tous les tifos et tout qui ont été faits par les supporters. Mais c'est vrai que c'était assez impressionnant. J'ai entendu qu'il y avait 7000 personnes, si possible, je crois.
C'est ça, ouais.
Et donc.
C'était le max.
Je pense que ouais. Ouais. Non, c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa. Bah, la police a dû.
Mettre une écharpe jaune et bleue.
Non, demander aux gens de partir après le match, en fait, parce que tout le monde est resté dans le stade. Et puis, quand les stewards ont demandé aux gens de sortir du stade, les gens se sont amassés devant le stade, dans les bars aux alentours. Et donc, la police, à un moment, est arrivée pour dire que
ça suffit.
Ça allait, quoi.
Moi, ce qui m'impressionne quand même, c'est donc, non seulement c'est le même groupe qui a joué en D1B, mais il y a peu de joueurs dedans, à part Damien Marc, je pense, qui a une petite carrière en D1A.
Ouais, ce sont tous des novices à ce niveau-là.
Un chapeau, vraiment.
Ouais, et ça c'est forcément le caractère des joueurs, mais les structures du club et Felice Mazou qui doit vraiment leur.
Puis, comme j'ai dit pour Bruges, c'est un sport d'équipe. C'est un naufrage en équipe, et là, c'est des victoires en équipe. Quoi.
Ouais, mmh. Ouais, ouais.
C'est vrai que Van Zer met 3 goals, mais c'est vraiment un match toute l'équipe a.
Bien sûr, bien sûr.
Porté ça, quoi.
Et Nielsen, bon, mais il fait un peu le travail de l'ombre, mais le travail qu'il réalise, ce gars. Et
déjà, puis, il ouvre la porte, hein, il fait sauter le.
Bien sûr, et quel but. Et puis, 5 minutes après, il lâche une deuxième reprise de volée complète, t'as l'impression qu'elle rentre. Non, quel joueur, ce gars. Ouais, franchement.
Chapeau d'un, ça fait plaisir de voir l'Union continuer sur cette.
On salue Alex,
ouais. Un autre match, un petit dernier match de Jupiler Pro League qui, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus à la fête comme ça peut-être, c'est Charleroi qui en a mis 5 au Berscott. Alors vous me direz, c'est pas forcément le plus gros exploit d'en coller 5 en ce moment au
avec
Berscott.
Avec Chama Nicholson qui en met 3, je crois.
Ouais, c'est ça.
Il est épatant, ce garçon, je trouve.
Oui, il est pas.
Il est pas très académique.
Non, il est pas très régulier non plus, mais ça. Mais voilà, quand ça va, quand c'est un jour avec, il réussit à
Et puis alors, il y a un joueur aussi qu'il faut noter, c'est qui est ultra sensible, c'est Morioka.
Ouais.
Qui marche que à l'amour, quoi. Anderlecht, il est passé à côté. Pourtant, il a le talent, il a tout ce qu'il faut. Mais je pense qu'il n'était pas fait pour un club. Il est fait pour un club comme Charleroi.
Oui, c'est ça, un club du sub-top.
Puis familial.
Qui est familial, qui est. Ouais, complètement.
Il doit sentir de l'amour, mais quel talent.
Ouais.
Je pense vraiment à tous les Japonais qui jouent. Il y en a quelques-uns qui jouent en Belgique. Ça, hein. Ouais. Il y a Ito, évidemment, mais dans un autre registre. Mais Morioka,
il est vraiment fin. Ouais. Très fin. Et ils ont perdu. Ils ont perdu Kaverezae.
Ouais.
Et pourtant.
Parti à OHL.
Ouais, à OHL. Drôle de carrière belge, lui aussi.
Il n'a pas touché une à Bruges.
Non, il a visité un peu. C'était pas mal à Charleroi. Non
ouais, bah oui. Ouais. C'était l'année dernière, c'était assez solide quand même.
Même ça, son premier passage était déjà avant de partir à Bruges. Il a fait une saison au canon.
Ouais, ouais. Ouais.
Mais
voilà. Ça, il y en a beaucoup des joueurs comme ça hein, qui ont fait des très très bonnes prestations dans les clubs entre guillemets moyens du championnat, enfin en dessous du top 4, qui se sont essayés au Standard, Anderlecht, à Bruges. En fait, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas les épaules pour.
C'est plus compliqué.
Ouais. Mais Métité, lui, il a fait les 3.
Ouais. Et il a réussi partout.
Avec des fortunes diverses. Ouais.
Bah, écoutez, je crois qu'on a fait un bon tour de la Pro League. Vous avez autre chose à ajouter
Je pense que la trêve arrive à un point nommé pour pas mal de joueurs, je pense.
Ouais. On rappelle au classement, il y a Eupen, dont on n'a pas parlé. Ils ont perdu ce week-end, mais ils restent.
Ils ont perdu à la maison, c'est étonnant.
Ouais. Bon, mais c'est vrai que.
Contre Serein, ça.
Vu les résultats depuis le début du championnat, ils ont perdu. Ouais, contre Serein. C'est ça, 1-2 contre Serein. Ils restent deuxième avec 11 points. À égalité avec Bruges, 11 points également. Genk, 10 points. Courtrai également, 10 points. Tout comme le Standard et Charleroi 10 points. Anderlecht est 12e, mais Anderlecht compte 12e avec 7 points, mais compte un match en moins. Puisque
contre la Gantoise.
Ouais, ça va pas être le plus simple, mais bon.
Et 12e, quel entraîneur d'Anderlecht pourrait résister à ça?
Ouais, bon, mais pour l'instant, c'est dans un mouchoir.
Ouais, mais l'histoire repasse les plats. Hein.
Ouais, il sautera pas. Il sautera pas maintenant. Écoutez, on en a fini avec la Jupiler Pro League. On va attaquer les Diables Rouges. Je vous propose qu'on fasse une petite pause. Une chanson qui a été plébiscitée par certains et certaines auditrices. Asley Santoro pour la nommer.
Une chanson italienne?
Non, c'est Queen, Under Pressure. Queen, David Bowie. Une très belle chanson de Queen. Sans doute la meilleure
Et d'aucuns disent la seule bonne chanson de Queen.
Non, moi, c'est Bohemian Rhapsody, quand même.
C'est vrai. La deuxième. Allez, on se retrouve dans 4 minutes. Under pressure. Oui, voilà.
Quelle voix.
Merci. C'était bien comme chanson.
Très très bien.
Super.
Je préfère Bohemian Rhapsody.
Elle est beaucoup trop longue. Je l'aurais bien mise, mais elle est beaucoup 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 trop longue pour une émission de radio. On passe au diable. Les Diables Rouges, on les a quittés contre l'Italie.
Ça fait mal.
Ça fait mal. Hein. C'était en quart de finale. C'était une défaite. On va les retrouver dans des matchs beaucoup moins excitants, mais il faut bien passer par là pour pouvoir accéder au Graal, qui est la Coupe du Monde, même si la prochaine, c'est peut-être pas la plus excitante, elle va être en novembre au Qatar, mais enfin bon, ça reste une Coupe du Monde. Et comme on le dit et comme on le répète en Belgique,
c'est maintenant ou jamais,
la fameuse génération dorée réussira-t-elle à gagner quelque chose sous la houlette de Roberto Martinez ? Les prochains rendez-vous, donc c'est d'ailleurs c'est assez compact, hein, 6 jours, 3 matchs.
J'aimerais bien remercier la FIFA pour nous avoir rajouté une troisième purge au lieu de deux purges dans cette période de trêve internationale. Ça fait toujours plaisir, un petit match.
Il y a un match qui va être là. Le premier match, c'est le à l'extérieur en Estonie. Il faut y aller.
Faut y aller ouais.
À Tallinn, donc ça c'est le 2, c'est jeudi. Si je dis pas de bêtises, c'est jeudi soir à l'extérieur. Puis retour à la maison pour la République tchèque. Là, ça va être un match assez. Là, ça va être un bel affrontement.
Oui.
Patrick Schick.
Ouais.
Avec quelques. Bon, une équipe qui a bien.
Qui a laissé une bonne impression à l'Euro, là.
Voilà, c'est ça. On va dire ça comme ça. C'est une équipe qui a plutôt bien joué, qui a laissé une bonne impression. Et puis, on va finir par ensuite un nouveau déplacement en Biélorussie. Ce sera le 8, donc mardi prochain. Mercredi prochain. Ça va faire en 6 jours, 3 matchs en 6 jours.
Il n'y a pas de quarantaine ?
J'espère pas.
Non,
il n'y a pas. Il n'y a pas, mais bon, ça va faire quand on sait. Que... Alors, on va y venir. J'allais dire, quand, donc ça se joue le 8. Quand on sait que le club de Bruges rejoue le 2 jours après, le vendredi, le calendrier est scarpe, comme on dit. Mais vous me direz, à juste titre, il n'y a pas de joueur du club de Bruges qui sera sans doute titulaire dans ce match, encore que c'est le dernier.
Non, mais
il y a quelques joueurs, mais justement.
Là, on a le cas du club de Bruges, mais dans les autres championnats, dans les autres équipes, on a des joueurs qui vont se faire ça. Et tu as des joueurs qui ont fait 60 matchs l'année dernière, qui ont eu 2 semaines de vacances après soit la Copa América, soit l'Euro, et qui vont se retaper 60 matchs cette saison.
Oui, mais les droits
sur la tête.
Mais c'était pas là-dessus que je voulais.
Pardon,
je vais en parler. Non, mais on peut en parler aussi. Moi, ce qui m'intéressait plus,
c'est pas là-dessus que je voulais parler.
c'était autre chose. C'était savoir est-ce que Martinez a toujours. Vous connaissez peut-être cette musique.
Ah bah oui.
Voilà. Est-ce qu'il a le collier d'immunité toujours, Roberto Martinez? Je vous rappelle qu'il a. Il a fait une.
Mais il y en aurait deux alors, parce que compagnie a déjà.
C'est vrai, c'est pas le... il y en a deux. Alors on va se voir au conseil.
Il y a un national, un international.
Mais c'est vrai qu'il a des résultats extra depuis son arrivée. Malheureusement, ça s'est pas concrétisé autant qu'on l'aurait souhaité.
L'Euro laisse un gros goût amer quand même. Hein.
Voilà, laisse un goût amer.
Parce que non seulement on se fait éliminer assez tôt, mais en plus on n'a pas bien joué.
Et puis il y a eu une petite flèche de Van den Brom, l'entraîneur de Genk. Ce week-end, enfin un petit peu avant le match, qui se plaignait du fait qu'un joueur, deux joueurs, mais un en particulier, enfin à mes yeux en tout cas, c'était au Bongonda, ne soit pas sélectionné. Il a fait une sélection de 31 joueurs. Il y a 5 joueurs seulement du championnat de Belgique. Bon, ça en soi, il n'y a pas de honte à ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous pensez que la sélection de... Est-ce qu'il renouvelle suffisamment ses joueurs et oui ou non est-ce qu'il ouvre suffisamment la sélection? Et est-ce que vous pensez pas que le championnat de Belgique est...
Est-ce qu'il regarde les matchs du championnat de Belgique au lieu de se parader dans les tribunes de Old Trafford ou dans les grosses tribunes en Angleterre déjà?
Mais non, mais ouais, je veux dire qu'il
fait son boulot.
Ouais, enfin son boulot si c'est pour sélectionner Lukaku ou...
Moi aussi je peux le sélectionner Lukaku.
Ouais, sans aller voir les matchs, hein, je peux sélectionner Lukaku sans aller voir le peut-être le plus important, c'est peut-être d'essayer justement...
Enfin, Bongonda, c'est un scandale. Ouais. Au moins, laisse-lui sa chance, quoi. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Honnêtement, qu'est-ce qu'il lui a fait?
Et puis là, il a 25 ans, je veux dire. C'est un joueur qui a déjà, il est capitaine de son équipe. Une équipe qui a fini deuxième. Il a été,
Super play-off.
Super play-off. Là, il a 5 matchs de championnat, 4 buts et une passe décisive, je crois. Un assist, ouais. Comme le disait Van den Brom, qu'est-ce qu'il peut faire de plus, pour pouvoir, prétendre à la sélection?
J'ai l'impression qu'il a une logique de club. On l'a déjà dit avant la sélection pour l'Euro, la même chose, on a posé la question avec Salemakers, qu'est-ce qu'il va faire de mieux d'être titulaire au Milan AC?
Alors, à la limite, Salemakers, enfin, tu as raison, mais est-ce que...
Il était dans le deuxième groupe.
Ouais. Il était dans le deuxième groupe, il a peut-être... Il l'a mis là en se disant, sauf Pépin, je le prendrai pas, mais au moins, je lui fais goûter un peu...
Mais il l'avait essayé avant l'Euro. Il l'avait essayé, quoi.
Mais là, c'est vrai que c'est le moment de pas tourner peut-être pas une page complète, mais en tout cas d'essayer d'autres joueurs.
Moi, je trouve qu'il y a je suis d'accord ou pas d'accord, mais il a une cohérence. Martinez, il fonctionne comme un club, il a son groupe. Il avait un double groupe avant les derniers jours de sélection. Là, c'était 11 remplaçants, je pense. Et je pense que les 31 qui sont sélectionnés maintenant, c'est pratiquement tous
le même groupe qui était à l'Euro. Ouais.
Donc je pense que, après, on peut ne pas être d'accord parce que c'était le moment de peut-être d'intégrer des jeunes.
Alors il le fait par la force des choses, parce que quand on se souvient, ils s'en sont pas trop mal sortis par rapport à ce qu'on avait pu dire avant le début de l'Euro. C'est la défense où on avait vu les années s'accumuler, l'âge des trois défenseurs centraux qui commençait à être problématique. Bon, il a continué, il sélectionne toujours Vertonghen et Alderweireld, mais il a sélectionné Hannes Delcroix. Mmh. Malheureusement, il va devoir faire une croix là-dessus. Van Huysden est revenu. Mekele, qui n'est pas non plus de première jeunesse, il doit avoir 28 ans.
Il avait déjà été dans le groupe.
Il avait déjà été, voilà. Mais c'est vrai qu'il doit mettre des joueurs, en tout cas en défense centrale, s'il veut continuer avec ce système, il doit tester des arrières centraux.
Moi, je pense qu'à terme, il va installer Witzel en défenseur central.
Comme à Dortmund.
C'est ce qu'il joue, ouais.
Comme à Dortmund, exactement. Je pense qu'à terme, ça va être ça, parce qu'au milieu, on a un petit peu plus de vivier qu'en défense, et je pense comme tout joueur, les années passent pour Witzel, et je pense que vraiment à terme il l'installera en défense centrale, et je pense que c'est une bonne idée.
Ouais.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais
c'est vrai,
et donc ce serait une solution en plus déjà en défense.
Ouais, c'est vrai.
Mais pour revenir sur le cas Bokonda, je sais pas si c'est quelque chose de personnel, mais je pense que vraiment il paraît, comme je dis, on peut être d'accord ou pas, mais je pense qu'il paraît une logique de groupe. Il a arrêté un groupe, et je pense qu'il va voir. Il fait naviguer ce vivier-là parce qu'il veut.
Et pour faire une comparaison assez, enfin, que moi je trouve assez pertinente, c'est à peu près la même chose qu'avec Deschamps, où lui il a dit pendant 4 ans le groupe vit bien, je garde le même groupe. Bah, on a vu ce que ça a fait à cet Euro aussi. Et donc là, à la liste qui vient de tomber, il a pris des nouveaux joueurs. Et je pense qu'ils fonctionnent à peu près pareil tous les deux. C'est tant que mon groupe marche,
vit bien.
Je vis bien, le groupe vit bien. Mais sauf que là, ça n'a pas marché et il a continué.
C'est vrai.
Enfin,
il serait un peu conservateur, Martinez.
Bah,
c'est vrai que c'est tellement autre chose.
Ouais. Franchement, être plus conservateur que Deschamps, c'est compliqué. Il l'a fait, quoi.
Et alors, ce que Van den Brom disait, ce dont il se plaignait un petit peu, c'était de dire, il dit, je m'appuie. Alors, c'est vrai que c'est une défense comme une autre, une justification pour Martinez, mais il dit je m'appuie sur les résultats en club et voilà, c'est là-dessus que je sélectionne. Bon, qu'est-ce qu'il peut faire de mieux, l'ami Bokonda, pour être sélectionné? Et puis à côté de ça, il y a peut-être des joueurs qui le mériteraient moins sur ce qu'ils montrent actuellement ou ce qu'ils montrent pas. Bon, alors évidemment, il n'y a pas les mêmes, le statut n'est pas le même entre Alderweireld, qui n'a pas repris dans son championnat, qui soit dit en passant, et le Qatar, puisqu'il va jouer au Qatar. Bon, il n'a pas besoin, lui, nécessairement, de le voir jouer, de voir le niveau qu'il a depuis. C'est le même que depuis
un
mois. Non, bien sûr. Mais voilà, on a l'impression qu'il y a peut-être pas des passe-droits, mais il y a des règles qui ne s'appliquent pas tous de la même manière. C'est super que Charles de Ketelaar soit sélectionné, hein, il joue très bien, mais est-ce que sur la fin de saison dernière et le début de cette saison, est-ce que de Ketelaar est au-dessus de Théo Bokonda? Je ne suis pas certain. Mais après,
non, mais la différence, c'est que si ça avait dû se faire, il aurait dû être dans les 11 réservistes avant l'Euro, je pense. J'essaie de me mettre à la place, je suis l'avocat du diable là, à la place de Martinez.
C'est le cas de le dire.
Ouais.
Des diables. Du chef des diables.
Mais ça doit être décourageant quand même pour des attaquants.
Mais ça doit être horrible.
Et alors,
après, il prendrait la place de qui?
Bah, sur 31, il peut au moins aller prendre la place de.
Non, mais je sais pas. Pour moi, là, il est plus légitime d'être sur le terrain que Dries Mertens derrière Lukaku et Hazard, par exemple. Enfin, derrière Lukaku avec Hazard, par exemple. Si tu. Enfin, c'est des considérations tactiques. Après, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu. Mais
je le compare à Rivers Karen, qu'il avait repris même quand il jouait pas du tout. Tu vois, il reste fidèle à son truc. Moi, je le verrais plutôt à la place de Yari Verskaren dans le groupe.
Oui, non, bien sûr. Enfin, oui, Verskaren, je voulais parler sur le terrain, mais effectivement, Verskaren, même la saison dernière, il est bon, mais il n'est pas excellent. Bokonda est largement meilleur.
Est-ce que dans les 31, il y a des nouveaux vraiment?
Non.
Qui n'avaient jamais été repris?
Je ne crois pas.
Moi, je n'ai pas eu l'impression non plus, mais je peux passer à côté.
Non. Il y a les classiques. Au milieu, vous avez Prats, Sambiti, Le Mans, Van Aken, Verskaren, Witzel, De Donker, Carrasco. Alors, en attaque, j'ai l'impression que ça doublonne, ça triplonne même. Batshuayi, Benteke. Il y a bien sûr Eden Hazard, Charles de Ketelaar, Trossard, Lukaku et Luke Bakayoko,
qui joue.
Ah, lui, il n'avait pas été sélectionné.
Non, lui, il n'avait pas été sélectionné.
Nouveau,
il a eu une ou deux. Je crois
qu'il a fait une pige déjà.
Il a déjà fait une sélection en novembre.
Il vient de signer à Wolfsburg d'ailleurs.
Voilà. Donc, bon, bah après, c'est simplement. Je ne dis pas que Martinez a tort, mais c'est vrai que ça doit être frustrant quand vous êtes.
Après, c'est le rôle, c'est le rôle d'un entraîneur, je parle de Van den Brom, de défendre ses joueurs.
Aussi, c'est vrai. Mais on a l'impression que voilà, il dit certaines choses et que. Ou alors qu'il soit clair, c'est peut-être ça qui doit être frustrant. C'est-à-dire quand vous dites c'est les performances, bon, je ne sais pas si. C'est, encore une fois, ce ne sont pas les mêmes postes, mais les défenseurs, on a l'impression que ce n'est pas vraiment là-dessus qu'ils sont jugés. De Neuer, je ne suis pas certain qu'il ait beaucoup joué, très bien joué depuis le début de saison. Il est repris. Van Huysden, il n'a pas non plus très bien démarré, me semble-t-il.
Il a pris une claque, je pense.
Voilà. Bon, ils sont sélectionnés quand même. Bon, mais ça doit être frustrant et ça doit pousser le joueur à se dire peut-être que je ne suis pas considéré parce que je joue en Belgique. Et que pour que je sois considéré par le sélectionneur, peut-être faut-il que j'aille jouer à l'étranger.
Il joue à Genk, il joue pas à Bruges, il joue au Standard Anderlecht.
Ouais,
mais Genk finit deuxième du championnat.
Ouais, je sais, non, mais. Je suis l'avocat du diable.
Tant mieux pour lui qu'il joue pas au Standard et à Anderlecht.
Non, mais j'ai un Vascar.
Je vois ce que tu veux dire, mais il peut pas plus.
Non, lui, il fait sur le terrain ce qu'il faut, c'est sûr.
Ouais, ouais. Et c'est vrai que du coup, on parlait de club. Parce que ça fonctionne un peu comme un club, mais pour certains joueurs, on doit avoir l'impression que ça fonctionne comme un club privé et que t'as la carte,
oui, c'est
t'as pas la carte.
C'est ça,
et
ouais.
Lui,
ouais,
il l'a visiblement pas. Ça doit être.
Clairement.
Clairement pas.
S'il n'est pas dans les 31.
Ouais. Oui, c'est ça, 31, alors que.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas.
Mertens est blessé, Doku est blessé.
C'est vrai, Doku est blessé aussi.
Donc
ouais.
Ça fait 33. Voilà.
Bacciari n'a pas joué un match depuis 2 ans.
Kevin De Bruyne n'est pas sélectionné parce qu'il est blessé aussi.
Il a joué avec Besiktas ce week-end.
Il a joué ce
il a fait un assist, je crois.
Non, mais je dirais.
Non, mais
on rigole,
Je comprends que De Bruyne se pose des questions.
Ouais, ça doit être frustrant. Mais comme tu le dis, il est aussi là pour défendre son groupe, ses joueurs.
C'est valorisant pour le joueur de dire, tiens, mon coach, il me défend en équipe nationale. Quoi. Bon appétit.
Merci. mais sinon, non, c'est vrai que ce sont les joueurs habituels qui ont été sélectionnés. Sambi, dont on sait qu'il est parti à Arsenal, on en parlera tout à l'heure de l'Angleterre. Il y a 31 joueurs, il y a 3 matchs, à coup sûr ils vont beaucoup tourner, 4 gardiens de but, pas de Mignolet, donc Courtois, Kaminski et Sels, le gardien de but de Strasbourg, mais je crois que c'était entendu déjà avec Mignolet que c'était...
Oui, je pense que c'est sûr, il n'y a pas de question dans les hiérarchies.
Oui, mais il n'est clairement pas 5e gardien belge, mais voilà, c'est soit il était premier, soit numéro 1, soit... Voilà, il a passé l'âge pour être gardien numéro 2. Mm-hmm. Mais voilà, donc il va passer.
À un moment, on avait parlé de Sels au PSG, mais.
Ouais.
On en a parlé, quoi.
Oui. Il est venu au Parc des Princes, avec Strasbourg.
Mais c'est sûr que c'est vraiment le poste à qui. Qui manque au PSG un gardien, quoi.
Ouais, ils ont déjà suffisamment de.
Ils ont combien 5 ou 6 sous contrat.
Ils ont énormément de joueurs sous contrat, c'est vrai. Ouais. Et puis déjà, ils vont devoir s'amuser. Ils ont...
Donnarumma et Navas.
Donnarumma est remplaçant. C'est rare quand même d'avoir le meilleur joueur de l'Euro remplaçant. Ouais, il est sur le banc.
Ouais, il était sur le banc hier.
Le banc était pas mal hier. écoutez, on va y venir. On va y venir puisque.
Oui, parlons foot.
Parlons football. On va parler un peu de la Ligue 1. Vous savez que ce que Salvador Dali considérait comme le centre du monde.
Perpignan, la gare.
La gare, les toilettes pour hommes de la gare de Perpignan, exactement. Eh bien, hier, le centre du monde footballistique, ça devait être le vestiaire visiteur du stade Raymond Coppa à Reims, puisqu'il y avait plus de 200 journalistes qui se sont fait accréditer de médias du monde entier pour venir voir les premiers pas de Léo Messi avec le Paris Saint-Germain. C'était retransmis dans
Mondiovision,
je crois.
L'Argentine ont acheté les droits uniquement de ce match.
Ça, au Vietnam, où on ne diffusait jamais la Ligue 1, ça a été diffusé. En Nouvelle-Zélande, c'était en direct à 6h du matin.
Ils sont des amateurs de foot, ils ont un souvenir de l'histoire. Le stade Rennais, ils savent très bien ce que c'est.
Exactement, le stade de Reims, c'est quand même le stade de Reims, un club historique, puisque premier finaliste de la Coupe d'Europe des clubs champions face au Real Madrid. Un engouement fou. Et Lionel Messi était sur le banc. Il a sans doute pas encore la condition optimale pour pouvoir débuter.
Et le moment que tout le monde attendait est arrivé à la 66e minute. Il a fait ses débuts, il est entré et il a eu droit à une ovation, comme c'est assez rare, mais d'être ovationné, de voir un adversaire ovationné comme ça dans un stade, le public de Reims était ravi.
Je ne sais pas si vous avez vu cette petite vidéo du directeur commercial du stade de Reims juste avant le match, qui appelle ses supporters au moment où Messi rentrera sur le terrain à faire la fameuse chanson qui était au Camp Nou. Messi, Messi. On
c'est
a dépassé
fou, hein.
les limites.
Ouais,
quand un officiel du club appelle ses supporters à faire un chant pour un joueur adverse, on a dépassé vraiment les bornes. Enfin,
il y a des images cocasses, hein, le gardien, le gardien du stade de Reims qui met son gamin qui devait avoir peut-être deux ans dans les bras de Messi
prendre en photo. Ouais, non, il y a une folie autour de lui.
Ça m'avait rappelé la Dream Team de
Barcelone.
À Barcelone.
Où les adversaires prenaient des photos avec Michael Jordan et tout ça, tout à fait. Je pense qu'il aura droit sans doute à un accueil comme ça partout en France, presque partout, évidemment.
Je pense que quand il
va arriver au Vélodrome, ça va être autre chose et que là, il va...
Il y a des clubs où il va se prendre des scooters sur le match.
Moi, si j'étais lui, j'irais même pas à Marseille.
Hein. Il ne va pas dormir là-bas, en tout cas.
Non. Alors, peut-être ce qui va le sauver, enfin, quand je dis ce qui va le sauver, c'est-à-dire qu'on connaît l'antagonisme entre les deux clubs, on sait que... Moi, j'ai vu des vidéos de supporters marseillais, enfin, de Marseillais fous de Messi, qui l'insultait, qui brûlait le maillot en disant « Mais comment tu peux faire ça ? Mais qui tu es ? T'es fou !» Et donc, à mon avis, connaissant la nervosité de certains Marseillais, ça pourrait dégénérer sur le terrain. Avec un coach, mais il y a un coach argentin et je pense que...
pour connaître plutôt bien, je sais avec Neymar c'était la même chose. Au final, Neymar il s'est pris quelques boulettes de PQ sur la tête et tout s'est très bien passé. Je pense que certes il y a quelque chose où les supporters de l'OM sont extrêmement déçus du fait que Messi ait signé au PSG, mais je pense pas qu'ils vont dépasser les limites comme par exemple les supporters de Nice ont pu le faire la semaine dernière.
Ouais. C'est peut-être des supporters de Nice qu'il faudra se méfier pour
le PSG.
Mais non, ça a été c'est quand même incroyable. On y croit presque toujours pas de savoir qu'il est dans cette équipe. Il a pas débuté parce qu'en attaque il y avait un trio qui était celui de l'année dernière, un trio qui est pas mal. Mbappé, Neymar, Di Maria. Mbappé a marqué 2 buts. On se posait les questions.
Dont un de la tête.
C'est rare. On se posait la question. C'était la question qui hantait un petit peu toutes les rédactions d'Europe et du monde entre Madrid et Paris, à savoir est-ce que Mbappé allait partir alors que le mercato se termine demain. Il semblerait, pour refaire un petit peu le feuilleton, il y a eu une première offre aux alentours de 160 millions, puis une deuxième, puis visiblement peut-être une troisième, mais on n'en est pas certain. Et en tout cas, ce soir, il a été annoncé par nos confrères d'RMC que le Real Madrid se retirait des négociations. Donc Mbappé va rester sans doute, mais on verra ça demain à minuit, va sans doute rester au Paris Saint-Germain et donc on aura au moins pour une saison le trio M&M's, Messi, Neymar, Mbappé.
Je comprends pas trop la position du PSG sur cette histoire en fait. Je comprends pas comment ils ont pu... Bon après certes, tu me diras, la valeur de l'argent c'est ce que t'as dans ton portefeuille, mais... comment est-ce que tu peux t'asseoir sur 180 millions d'euros, quoi? Enfin,
Moi, je pense que
si tu peux.
Non, moi, je pense que c'est une question de timing, c'est-à-dire que le Paris Saint-Germain, effectivement, surtout dans la situation dans laquelle ils sont par rapport à Mbappé, c'est-à-dire que admettons qu'il ait 3 ans de contrat et qu'on leur offre 180 millions, ils peuvent se dire non, on le vendra l'année prochaine.
Bon,
tandis que là, on sait que dans 4 mois, c'est terminé, il peut s'engager libre ailleurs. Mais je pense que là le timing était mauvais, c'est-à-dire qu'ils auraient eu l'offre au niveau qu'ils voulaient il y a une semaine, ils avaient le temps de se retourner, là ils auraient été en position pour faire ce qu'on appelle en Angleterre un panic buy et acheter, là on a entendu parler de Richarlison d'Everton qui est un bon joueur mais... Je l'avais là, je l'avais dans mon petit gazon l'année dernière, il est très irrégulier. Non, et puis c'est pour avoir un joueur de ce niveau-là, PSG a déjà Icardi, voilà.
Mais,
maintenant tu m'aurais dit, ils peuvent le vendre la semaine dernière et entre-temps ils peuvent ficeler Lewandowski ou Haaland. Oui, là dans ce cas-là, ils auraient dû le faire.
Mais enfin, beaucoup d'observateurs le disaient et étaient quasiment sûrs de le savoir, le fait que Florentino Pérez attendait le 27 août pour faire sa première offre. Il l'a faite le 25, donc déjà il l'a faite en avance par rapport à ce qu'on disait. Et en fait, apparemment, c'était vraiment pour mettre le couteau sous la gorge au PSG et leur dire, voilà, maintenant, je vous mets 160 millions sur la table, qui est monté à 180 et qui est peut-être monté à plus maintenant. Mais en fait, ça n'a pas du tout marché, son coup de pression, quoi. C'est,
non, voilà. Et le PSG, en gros, a signifié que... Je sais que ça va être difficile à entendre ce que je vais dire, mais que l'argent ne les intéressait pas.
Bah oui.
Et que l'important, c'était de gagner la Ligue des Champions. Et donc, voilà, qu'est-ce que... Ça va être encore choquant ce que je vais dire, mais qu'est-ce qu'ils auraient fait de 200 millions d'euros si c'était pour acheter un joueur moyen et de renoncer à ses ambitions, à son objectif de remporter la Ligue des Champions cette année?
Même Mbappé, sportivement, je sais qu'on voit les équipes, enfin les deux équipes entre le Real et le PSG, pour moi, sur papier,
bien
PSG
sûr,
est sportivement bien plus haut. Quoi.
Bien sûr.
Et puis c'est vrai que le fait pour
le Real est en reconstruction.
Mais justement, je pense que c'est parce que visiblement, Mbappé veut aller au PSG, veut aller au Real, pardon. Lui, je pense que c'est ça qui l'excite, entre guillemets, dans ce challenge. C'est que c'est déjà, de 1, la star du Real, de 2, la star de la Liga, parce qu'il n'y a plus aucune star en Liga maintenant. Les deux sont partis, les trois même avec Ramos. Et je pense que c'est ça. Mbappé est un joueur extrêmement égocentrique et qui aime être flatté. Et je pense que là, ça l'a flatté, le fait d'être porté au nu dans un projet où il va être la première pierre de ce projet.
Moi, je crois qu'il rêvait de jouer avec Eden Hazard.
Jouer, c'est un grand mot.
Partager le vestiaire.
Non, mais sportivement, dire s'il est bon, qu'il partira l'année prochaine aussi. Quoi.
Bien sûr,
Je pense qu'il n'a pas non plus mis la pression, comme il l'a dit, sur le Paris Saint-Germain. Il ne voulait pas partir en mauvais terme. Il n'a pas allé au clash, comme on dit. Ils n'ont pas sorti, heureusement, les fameuses phrases de Madame Rabiot, par exemple. Mon fils est un esclave, un prisonnier. Voilà. C'est quand même assez malvenu. Voilà, ça se serait fait. Il aurait été ravi d'y aller. Faut l'encadrer.
Mais d'un autre côté, je vais rester encore un petit peu là-dessus, mais je ne vais pas aller trop loin. Moi, il y a quelque chose qui me dérange dans cette histoire, en fait. C'est comment est-ce que ce joueur a pu être à 6 mois de la fin de son contrat sans qu'il soit prolongé. Pour moi, tu prends pas Messi, tu prolonges pas Neymar. La première chose à faire, c'est prolonger Mbappé. Et puis après, tu vois, si t'as envie d'aller chercher Messi, d'aller prolonger Neymar jusqu'en 2025, alors qu'il a fait 47% des matchs depuis qu'il est arrivé. Mais enfin, ils se sont trompés de priorité, en fait. Pour moi, vraiment.
Tu crois pas qu'ils ont essayé?
Je pense qu'ils ont
hors média.
Oui, non, ils ont dû essayer. Après, peut-être que aussi, il faut garder les choses en perspective. Ça reste la Ligue 1.
Bien sûr.
Et pour intéresser un Mbappé qui a déjà fait 4 ans au PSG, il faut pas. Autant au Real Madrid, je suis d'accord que lui dire t'es le centre du projet, c'est toi l'étoile et on va construire l'équipe autour de toi, ça l'aurait flatté de dire ça au Paris Saint-Germain. Et je pense que quand il a dit, lui, dans son approche. J'attends de voir le projet, ce qu'ils vont amener. Voilà, ils se sont dit, peut-être qu'ils vont réussir à le prolonger cette année, mais ils se sont dit au moins, si on ne lui ramène pas du gros matériel autour, Donnarumma, Ramos, Messi, ce qu'on veut, on n'a pas aucune chance de le prolonger. Alors c'est vrai que ça fait...
Autant pour Donnarumma, Messi, Wijnaldum, Hakimi, je suis d'accord, pour Messi, pour moi, c'est vraiment, et je pense que lui, il a mal vécu. Enfin, je sais pas. Hein, je suis pas dans l'interne du club, mais il porte le club depuis 4 ans quand même là. Mbappé, c'est lui qui fait tout à part dans le match à Manchester où il se foire complètement. Mais enfin, je sais. Enfin, moi, je.
Ah, mais, enfin,
après, c'est
peut-être hein, dans ce cas-là. Je trouve qu'il est un peu. C'est dommage parce que. Autant on peut avoir cette réaction quand on est n'importe quel joueur face à n'importe quel autre joueur, mais quand c'est Messi ou Cristiano Ronaldo, le joueur que tu fais venir, il n'y a pas à être vexé.
Bien
hein.
sûr.
Le meilleur exemple pour moi, c'est d'ailleurs Neymar qui part du Barça pour être la star, pour être,
sortir de l'ombre de Messi.
Voilà, et qui est ravi de le faire revenir après parce que finalement, on le voit, hein, depuis 4 ans qu'il est là, il est moins bon qu'à Barcelone. Il abuse de ses privilèges, de sa capacité technique à faire un peu n'importe quoi. Je pense que quand il était le lieutenant, entre guillemets, de Messi, le Scottie Pippen de Michael Jordan...
Il avait 4 ans de moins aussi. Hein.
Il avait 4 ans de moins, mais il était plus... Voilà, il restait dans les rangs et il n'allait pas réclamer à Messi. Il n'allait pas dire à Messi, non, c'est moi qui vais tirer le pénalty ou donne-moi la balle, je décroche de 45 mètres pour recevoir le ballon dans les pieds et c'est moi qui vais vous dire comment faire. Ça, c'est Messi qui va décider comment on joue. Et,
Et finalement, même, on peut dire ce qu'on veut sur les capacités physiques de Messi, c'est-à-dire qu'il marche peut-être 70%. Exactement, il peut, c'est pas du tout une critique. Mais je pense que lui, pour le coup, il va peut-être réussir à remettre Neymar dans le droit chemin, ouais, en lui disant, voilà, enfin, maintenant, je suis venu te rejoindre, c'est pas pour aller à l'anniversaire de ta sœur, deux jours avant, un huitième de finale. Exactement. Ou un quart de finale de Ligue des Champions, super important pour le club, quoi. Je pense que ça, pour le coup, c'est vraiment une bonne affaire pour le PSG vis-à-vis de Neymar, en fait. Plus que vis-à-vis de Mbappé.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, moi, c'est dans ce sens-là.
Et si tout ce qu'on racontait était du pipeau, parce que demain, il y a encore 24 heures, il y a un revirement.
Mais c'est ça aussi que je disais à Samuel tout à l'heure, il faut toujours faire attention au Real Madrid, quoi.
Ouais. Regardez Ronaldo.
Venons-en à Ronaldo, le contre-pied le plus fameux de la semaine dernière. Cela dit, puisque Ronaldo était à Manchester, on en a parlé, Manchester City, il va signer à City. Et puis, il a profité du fait d'être à Manchester pour signer finalement à United.
On nous prend pour des buses, hein. Tu vas pas me dire que le contrat était pas prêt avant.
Je sais pas. Mais en tout cas, c'est une bonne chose, je trouve.
Ou alors, il a fait comme avait dit Pelé, au lieu d'aller au Bayern, qui était allé au 1860 Munich, là.
Ouais, c'est ça. Écoute, c'est une bonne chose qu'il retourne à Manchester United. Comme on l'avait dit,
il sera mieux accueilli qu'en face,
ouais. Et puis il aurait gâché vraiment son image. Et je pense qu'il aurait eu une saison difficile en Angleterre, partout, pas seulement à Old Trafford. Mais
il n'aurait pas dû croiser des supporters de United.
Non. Et puis il est resté quand même 6 ans. Autant, voilà, l'histoire aurait dû se finir pour Messi à Barcelone. Je veux dire, la logique des choses aurait dû être que Messi fasse toute sa carrière européenne à Barcelone et puis qu'il parte ensuite dans un pays exotique. Mais les choses sont pas comme ça. Pour Ronaldo, un petit peu de la même manière, ça aurait été triste, je trouve, qu'il aille à Manchester City alors que ça aurait été une icône de Manchester United.
Moi, j'ai grandi avec Cristiano et les cheveux en pique, sur orange et le ballon d'or, quoi. Enfin, le maillot rouge, le voir avec ce maillot bleu ciel de City,
ça aurait été horrible.
Et puis le voir avec Guardiola, enfin, il y a rien qui allait dans ce transfert.
Et ce que j'ai bien aimé aussi là-dedans, c'est qu'il semblerait, alors on sait pas où est la part de vérité et de légende, c'est que Sir Alex est passé un coup de fil le matin de la signature, enfin du matin du moment où on l'a annoncé. Il lui a passé un coup de fil à Ronaldo pour lui dire pendant 20 minutes « Tu peux pas faire ça, tu vas... »
Et on connaît la relation de ces deux hommes.
Donc, avec le feu à la ville.
Hein. Ouais.
Là, on parle d'un truc de société. Quand même. Mm-hmm. Je pense que vraiment, la ville de Manchester, ça serait déjà les divisés en deux, là, ça aurait explosé.
ouais, c'est...
Oui, tout ça pour dire que c'est magnifique de le revoir jouer à Old Trafford avec
et ben justement, venons-en au championnat d'Angleterre, parce que c'était le quatrième point de notre menu. Le championnat d'Angleterre ne va-t-il pas être le plus excitant depuis de très très nombreuses années, même si c'est vrai que c'est le meilleur championnat d'Europe, qu'on se régale souvent quand on le regarde, mais là, en tout cas au départ, sur la ligne de départ, j'ai l'impression qu'il y a 4-5 équipes qui sont équipées pour aller très loin, quand on voit ce qu'ils ont produit la saison passée et les renforts qu'ils ont pu recevoir. City, peut-être le moins spectaculaire de tous, même s'il y a Grealish qui a été acheté à prix d'or et qui a l'air bien performer. Il rentre bien dans le moule.
Et KDB n'est pas encore là.
Kevin De Bruyne n'est pas encore là.
L'association de ces deux-là, ça va faire quelque chose. Hein.
Ça va faire quelque chose, oui. Et puis les Gundogan, Ferran Torres.
Maintenant, ils ont un réel problème, c'est qu'ils n'ont pas de neuf.
Ils ont
Gabriel Jesus, mais c'est pas du calibre de... Ouais. Ils n'ont pas de neuf. C'est un vrai problème.
Le PSG prête à Arnaud Kalimuendo, peut-être que ça.
Juste pour revenir sur Grealish, c'est génial, 140 millions à City et... Trop bien, enfin, on est tous ravis qu'il soit là-bas, mais je comprends pas comment, dès le départ de Kun Agüero, la première chose sur laquelle ils se sont penchés, c'était Harry Kane, quoi. Enfin, si ils voulaient absolument Harry Kane et qu'ils avaient 160 millions à dépenser, enfin, il fallait les lâcher sur Harry Kane. Je sais pas pourquoi. Ils ont fait ça après Grealish.
Harry Kane, ça m'a l'air bien compromis.
Il a mis un truc sur Instagram en disant qu'il restait la saison prochaine, donc je pense que ça va être compliqué.
Il y avait des observateurs qui disaient qu'ils avaient signé Grealish un peu tôt par rapport à Messi.
Ouais. Voilà, c'est vrai qu'il y aurait eu une...
C'était la seule... Je trouve aussi, ouais. De
toute façon, il n'y avait que deux clubs possibles, hein, honnêtement, sur la planète foot. C'était City ou PSG.
Oui et non, parce que...
Ou alors un truc exotique, comme tu dis.
ou pas. Je veux dire, y a personne, Messi, il n'est pas obligé de gagner 40 millions d'euros par an quand il a gagné ce qu'il a gagné. Je me fais aussi l'avocat du diable et c'est compliqué de dire ça. Mais s'il voulait vraiment jouer n'importe où ailleurs, il pouvait aussi, si son rêve, c'est par exemple d'aller jouer, je sais pas, à l'Inter, au Milan AC ou en Angleterre, il peut aussi dire, bah écoutez, je vais prendre 1,5 million d'euros par mois.
Je crois que son rêve, c'était de jouer au Barcelone.
Bah, si, alors, il évite de laisser son club de cœur en banqueroute et il baisse son salaire, quoi. Enfin, moi, c'est ça qui m'a extrêmement dérangé dans ce.
Moi aussi, surtout
au-delà du fait qu'il signe à Paris. Enfin,
on m'a dit, oui, mais même c'était pas possible. Mais si j'ai bien compris, c'est ce que Piqué a fait Busquets pour pouvoir permettre la signature de Paille. Alors, quand vous avez gagné autant qu'il a gagné,
je crois quand même que les contrats pro sont complexes hein, entre les sponsors, les managers, les droits à l'image. Et
ouais, mais bon, rien de
les sociétés écrans. Il avait déjà eu des affaires à partir.
Ouais. Alors peut-être qu'il a des dettes. Ouais, il a des dettes. Il a des impôts à payer en retard et il a besoin de cet argent.
Son père avait été condamné, je pense, il y a quelques années pour.
C'est possible, ouais. Mais c'est vrai que voilà,
fraude fiscale, tout simplement.
Tout simplement. Comme tout le monde.
Oh, c'est rien. C'est dans le football. Hein, mais c'est vrai que du coup, ce que tu disais, Henri. Et juste, on a dit, est-ce que City s'est pas un peu précipité sur Grealish? Du coup, ils ont plus les liquidités pour faire venir Messi. Moi, j'aurais bien voulu voir, je veux pas me plaindre, mais j'aurais bien voulu voir Messi en première ligue quand même.
Surtout avec Guardiola.
Avec Guardiola, ça aurait été, avec Kevin De Bruyne, ça aurait été pas mal. Bon, eh ben, on le verra quand même à Manchester City, à l'Etihad Stadium, mais avec le maillot du PSG, ce sera autre chose. Le deuxième club qui surfe sur une vague intéressante et qui s'est renforcée, et c'est rien de le dire, c'est Chelsea, champion d'Europe en titre, un peu à la surprise générale, en tout cas quand on sait que Tuchel a pris l'équipe en main en janvier, et qui a tout simplement recruté Lukaku. Souvent on dit que le réchauffé ça marche pas, je pense que Lukaku qui a déjà joué il y a bien longtemps
à Chelsea,
c'est pas le même Chelsea, c'est surtout pas le même Lukaku. Ouais. Ouais. Et lui par contre je pense que ça va être parfaitement adapté. Hein.
Ah, c'était le joueur qui leur manquait, un joueur qui peut jouer dos au but, et puis on le voit sur le match contre Arsenal il y a deux semaines, où il mange littéralement la défense d'Arsenal à lui tout seul, où il fait la typique Lukaku, passe du numéro 10, il est dos au but, il la remet, il se retourne, il accélère, il va finir devant le but. Et c'est ça qui manquait à Chelsea, ils n'avaient pas de finisseur, ils avaient Werner devant qui ratait tout. Donc, voilà.
Donc ils avaient Giroud.
Ouais. On se moque pas de Giroud. On va en parler après.
Il a marqué.
Ouais.
Mais parle, vu qu'ils ont réussi à vendre Kurt Zouma à West Ham, ouais. Je sais pas si ça va se faire dans la dernière journée là, mais ils veulent absolument aller chercher Jules Koundé à Séville pour une petite cinquantaine de millions, des broutilles en Angleterre. et ça serait bien pour eux, quoi.
Ouais, même si oui, c'est vrai qu'ils sont chargés un peu sur tous les postes, mais c'est vrai que en défense centrale, Thiago Silva est vieillissant
quand
même.
Ça. Mais si tu arrives à aligner un Rudiger, Thiago Silva, Koundé, franchement, ça a de la gueule, quoi.
Ouais. Et puis il y a Christiansen, ça, le Danois aussi. Ils sont plutôt bien. Et au milieu de terrain, alors est-ce que N'Golo Kanté sera toujours aussi fort? Mais surtout, voilà, il a Jorginho avec lui, ça fait un milieu de terrain. C'est vrai que c'est un épouvantail pour les milieux de terrain adverses.
Ils ont une équipe de fous là. Moi, je les mets favoris pour la première ligue.
Mason Mount,
Kaya Verts,
Pulisic,
Werner, non, j'ai rien dit.
Ouais.
Bah, ça fait quand même un bon mec à faire rentrer.
Attendez, on a oublié une grosse bêtise. Mais Manchester City, ils ont récupéré Lucas Hermecha.
Ah bah oui,
ils veulent un numéro 9. Il avait dit lui-même, je veux m'imposer en tant que
le grand attaquant de.
Je crois qu'il joue en Allemagne.
Je pense qu'il a été prêté à Wolfsburg.
Il a déjà marqué.
Si tu nous écoutes,
on est médisant.
Est-ce que le championnat va être passionnant? Il y en a un qui se pose la question, c'est quand même Arsenal. Hein.
On va y venir parce que ça fait vraiment.
Ils ont raté le train là.
Ouais. On a parlé City, on a parlé de Chelsea. J'ai envie de parler de Liverpool aussi, même s'il n'y a pas eu de recrutement. Mais il y a eu un retour qui va faire la grosse différence. C'est Van Dijk. Alors si le trio d'attaque est toujours aussi performant, est-ce que
j'ai l'impression que ce système de jeu est très très énergivore et que les trois là, maintenant ils ont 28, 29 je pense, enfin je suis sûr même. Ouais. Et ça fait 4 saisons qu'il joue comme ça. Moi je les aime bien, mais je crois que la ligne d'attaque est trop usée par le temps là.
Ouais, et puis ils ont perdu Wijnaldum.
Ils ont perdu Shaqiri.
Shaqiri n'était pas un élément essentiel, mais bon, il était dans la rotation. Il y a Diogo Jota qui est venu aussi, donc ça soulage aussi. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a le retour de Van Dijk et ça peut être une.
Ça, je pense que c'est un.
Ouais, c'est un apport essentiel.
Ils ont juste tour en défense. Hein.
Ouais, ça va. Ils ont Alexander Arnold. Enfin, ils ont des très bons joueurs et un très grand entraîneur. Il y a eu un fameux duel ce week-end d'ailleurs, c'était Chelsea-Liverpool entre Van Dijk et Lukaku.
C'est une mi-temps à 11 contre 10, ils n'ont pas réussi à passer outre l'attaque de Liverpool.
Je crois
que c'est juste à la mi-temps, c'est à la juste avant la mi-temps le carton rouge et le penalty, l'égalisation 1-1, et deuxième mi-temps, ils n'ont quand même pas réussi à passer devant.
Ouais, non, c'est.
Je pense que Chelsea est solide aussi.
Chelsea est très solide.
Ouais, vraiment. Enfin, de nouveau, moi, je les mets en favori numéro 1 pour le titre en Premier League cette année.
Manchester United, on a parlé. Il y a donc Ronaldo qui revient. Ça change tout. Ça va être. Ouais, il va y avoir une excitation folle autour de lui.
Ça crée une dynamique aussi dans les coéquipiers, je pense.
Ouais. Et alors lui, il a beaucoup plus voyagé que Messi, dont c'est le premier changement de club. Donc lui, on est un peu habitué. Mais s'il y a bien un club où ça pouvait créer une étincelle et créer vraiment la folie et l'engouement de tout le monde, c'est son retour à United, une équipe qui tâtonne, qui va mieux quand même depuis l'an passé, qui s'est qualifiée pour la Ligue des Champions, qui va garder Paul Pogba, qui a acheté
un gros mercato, Varane, Sancho.
Sancho, Varane en défense. Voilà une équipe qui va être aussi équipée, surtout voilà avec ce Ronaldo qui est sans doute le plus grand compétiteur qu'on ait vu.
Maintenant, toi qui es un peu plus suiveur que nous de Manchester, est-ce qu'on a toujours le même problème qui est sur le banc en fait?
Écoutez, ouais, c'est vrai que Ole Gunnar, les anciens de Manchester, alors c'est peut-être aussi pour être corporate et pas trop blessant parce que ce sont des anciens coéquipiers, mais c'est vrai que j'entendais Roy Keane ou Gary Neville dire que c'était bien, Solskjaer avait une ligne directrice, contrairement à Mourinho, contrairement à Moyes, même avant lui. Il a pour l'instant pas été, il n'a pas eu l'air d'être transcendant dans ses choix, dans son.
Mais ses résultats sont pas catastrophiques.
Voilà, c'est ça.
Et ils sont même bons.
Ça lui met la pression parce que d'avoir Ronaldo dans son effectif.
Ouais, et ça va peut-être retirer de la pression aux jeunes aussi parce que Rashford, il a. C'est un super joueur, hein, mais il a peut-être été un peu trop exposé, en plus avec tout ce qu'il avait bien fait pendant le Covid, où il a été impliqué. On a parlé de lui pour plein d'autres choses que le football, mais en positif. Et c'est vrai qu'il y a de grosses attentes. Mason Greenwood aussi, qui est là, mais ils ont une grosse équipe. Edinson Cavani, c'est un sacré remplaçant.
Bien sûr. Il y a encore Martial.
Est-ce qu'il a cédé son numéro?
Il a dit qu'il était prêt à le faire. Franchement, s'il le fait pas, moi, je lui en voudrais toute ma vie, quoi.
Ouais,
Cristiano ne peut pas revenir à Manchester sans le numéro 7.
Je sais pas comment il va vivre avec ça. Si tu lui en veux toute sa vie.
Écoute, il peut prendre le 77 ou le 17 ou le 10, mais non.
Le 3 plus 4.
Le 3, oui,
ça avait déjà été fait.
C'était Recoba, je crois, non?
Non, c'était Zamorano. Il avait le 1 plus 9, je crois, ou.
1 plus 8.
1 plus 8, 8 ouais. Avec lui, il y avait un petit plus qui était sur le maillot.
Des grands gosses, quand même.
Ouais, c'est ça. Il faut que. Cela dit, c'est. Au niveau du marketing, c'est important, ça importe. Un dernier club qui va être, à mon avis, bien aussi, et lui, le recrutement principal, c'est sur le banc, c'est Tottenham, qui n'a pas perdu Harry Kane. Kane, Son, ils ont conservé leur milieu de terrain, Bergwijn, s'ils ont perdu Sissoko.
Qui est parti à Watford.
Ouais, Sissoko, bon, premier dans un concours de circonstances. Ils ont perdu Alderweireld, c'est vrai. Mais voilà, et ils ont surtout Nuno Espirito Santo, l'ancien gardien de but portugais, qui est un très bon entraîneur. Ils sont leaders, ils n'ont pas encaissé un seul but. Ça va être une équipe forte, Tottenham.
Et ils ont un joueur qui a été très très irrégulier sur ces dernières années, bah, depuis qu'il y est arrivé, c'est Tanguy Ndombele.
Ouais,
qui fait un super début de saison. Et ce gars est un très très bon joueur.
On l'avait un peu perdu
de vue depuis qu'il est parti de Lyon. Et bon, ben, il a l'air, bon, ça fait que deux matchs, hein,
mais
il a l'air de, il a l'air d'avoir retrouvé une sorte de niveau de jeu.
Ils ont joué qui, je me souviens plus.
Ils ont joué de bonnes équipes.
Je vais bien te poser la question. Hein.
Je me demande s'ils n'ont pas joué Wolverhampton justement en le retour de d'Espirito Santo.
Ouais. Et ils ont joué. Et je crois qu'ils ont eu un bon un match quand même un peu compliqué, peut-être.
Tu poses une colle, Henri.
Tu me poses une colle, oui. On prépare, mais ça, on ne l'avait pas.
Alors, ils ont joué Watford, je me suis trompé. Watford. Ils n'ont pas joué.
Un autre club en W.
Exactement. Et ils ont en plus les mêmes couleurs de maillot, donc voilà. C'est pour ça que je me suis trompé. Je suis confus. Et le premier match était.
On coupera au montage.
On coupera. Non, c'est ça change pas. C'est...
Ils ont eu des matchs difficiles, en tout cas. En tout cas, ils ont fait 3 matchs, ils ont 9 points. Ils ont donc inscrit début.
Wolverhampton le premier match.
Voilà, donc, deux matchs en W, c'est les plus difficiles. c'est vrai qu'ils n'ont pas eu des matchs forcément très compliqués. Mais bon, ils n'ont pas encaissé. Et il y a une équipe qui est au complète opposé, diamétralement opposée sur le spectre du championnat. C'est pourtant une équipe qui est voisine, c'est Arsenal. Qu'arrive-t-il au... Il faut sauver le soldat Arsenal. Qu'arrive-t-il à Arsenal ? 0 point, 0 but marqué. C'est angoissant pour une équipe avec un pédigré pareil. Alors c'est pas le Real Madrid.
Malgré un recrutement génial, ils ont Samuel Okonga.
Ouais.
Sambi, ouais, non,
ils ont posé de l'argent. Ouais, ils ont pris Odegaard, ils ont pris Sambi, Ben White. Lui, part pour les suiveurs de première ligue, c'est un parfait inconnu.
Ouais.
Est-ce que le problème est pas sur le banc avec Arteta?
Moi j'en suis quasiment sûr.
On l'a vendu comme un nouveau PP.
Ouais, mais parce que vraiment, quand il était à Manchester City, c'était pas l'adjoint qui pose les plots et qui se tasse derrière son entraîneur. Il avait vraiment un rôle très important très important dans les succès de City ces dernières années. Mais je pense qu'en fait, il était peut-être pas assez prêt pour le poste de numéro 1, ou bien il n'était pas assez prêt pour un projet aussi grand que celui.
C'est compliqué,
Arsenal.
Ouais. C'est compliqué.
Il y a tout à refaire dans
Arsenal,
ce club.
Ouais. C'est compliqué parce que vous avez une succession à prendre. Ça fait déjà un certain temps quand même déjà, mais c'est un peu comme avec Alex Ferguson.
Bien sûr, ouais. J'allais faire le parallèle.
Wenger, c'est compliqué. Et puis ils n'ont peut-être pas la force financière d'un Manchester United qui a pu recruter assez rapidement des grands joueurs et donc créer un effectif. Eux, ils ont eu, maintenant je pense qu'ils en sont sortis, mais ils avaient à payer leur stade, ce qui faisait qu'ils ne pouvaient plus se permettre de dépenser des sommes folles sur le
marché. Mais je rigole avec Sambi, mais c'est pas le même niveau que les autres transferts des grands clubs.
Bien sûr.
Avec tout le respect pour Sambi.
On adore tous Sambi, mais
il joue titulaire.
Il n'était pas titulaire ce week-end.
Il a commencé.
Mais ce week-end, il a commencé.
Les deux premiers matchs.
Oui, c'est ça, ouais, les deux premiers matchs. Contre Chelsea, il prend le bouillon. Mais bon, après, tu me diras, avec le milieu de Chelsea, je pense que tout le monde prend le bouillon. Mais non, c'est sûr, on aime tous Sambi. Mais quand tu es un club qui veut rivaliser avec le top 4 anglais, c'est très faible comme recrutement.
Le milieu de terrain, il est... Bon, il y a Thomas Partey, le Ghanéen qui jouait à l'Atlético Madrid, qui est un peu disparu.
Il a disparu depuis qu'il est arrivé à Arsenal. Ouais. T'as Chaka qui a des pieds carrés.
Voilà, qui s'est fait sortir. Sambi, donc, qui vient de recruter. Bukayo Saka, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Enfin,
il est un bon joueur, très jeune, il a 19 ans, le gars.
Voilà. Odegaard.
Est-ce qu'il n'est pas blessé aussi? Il arrive blessé dans sa tête.
En tout cas, il avait reçu, je ne sais pas si vous vous souvenez, une belle preuve de respect de la part des supporters de Tottenham. Il y a eu un match Arsenal-Tottenham où, quand il est rentré sur le terrain, peut-être que je fais une erreur, peut-être que je confonds avec un autre joueur qui a loupé au tir au but anglais. Et non, il me semble que c'était
Rashford n'a pas joué, Sancho.
Il est entré, il a été applaudi par les supporters de Tottenham, alors qu'on sait qu'il y a quand même une certaine rivalité. Mais c'est vrai que là, je regarde le milieu de terrain, Saka, donc Odegaard, c'est pas non plus, il n'y a rien de sûr avec lui, il a été prêté.
La seule chose qu'on sait, c'est qu'à 16 ans, c'était la nouvelle pépite du football mondial.
C'était déjà il y a 6 ans.
C'est vrai qu'il était très fort pour un joueur de 16 ans.
Ouais, c'est ça. Vous vous souvenez peut-être Freddy Adu, l'américain.
sûr. Il a fini au Washington Wizards.
Ouais. Et encore là, je crois qu'il est en 3e division libanaise. Et il fait ce qu'il peut, le pauvre.
On a eu la même chose avec Anderlecht, avec Nilamte.
C'était
meilleur joueur de la Coupe du Monde junior.
Le Ghanéen Nilamte. Ouais.
Qui avait été adoubé par Pelé, qui avait dit c'est mon nouveau.
Il a dit adou aussi.
Ouais, il faut se méfier quand Pelé. Il faut se méfier de Pelé.
Ce mec n'y connaît rien.
Oui, c'est ça. Il était très très bon, mais il y connaît que dalle. C'est pour ça que les gens veulent pas trop le. Non, non, c'est bon. Si, viens ici, je vais t'adouber. Non, non, vraiment, ça.
Non, laisse-moi tranquille.
Et puis l'attaque, bah, je suis désolé, mais Pierre-Emerick Aubameyang, c'est 32 ans. Ça n'a jamais été. C'était un très bon joueur, mais.
C'est pas un crack.
Lacazette, pareil. Nicolas Pépé, pareil.
Lacazette, c'est décevant, je trouve.
Ouais, mais je pense qu'il a. Il a plafonné.
Ouais, c'est ça.
Il a fait le mieux
très bon
en Ligue
1.
Je pensais qu'il avait passé un stade.
Moi aussi, Je pensais.
Plus que Pépé.
Ouais. La saison où il part de Arsenal pour. Enfin, de Lyon pour aller à Arsenal, il est meilleur buteur de Ligue 1, meilleur joueur. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Il arrive à.
Il fait même des bons matchs avec les Bleus.
Ouais. Il arrive à Arsenal et c'est catastrophique.
Donc voilà une équipe qui va avoir des difficultés, mais qu'on suivra avec intérêt toute la saison. Écoutez, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon de l'actualité de la semaine. Je vous rappelle que cette semaine, ce sont les matchs internationaux. On se retrouve pas la semaine prochaine.
On fait une trêve,
voilà, mais on se retrouve celle d'après. Au revoir, Henri.
Salut Sam, salut Blaise.
Au revoir Blaise.
Au revoir, à bientôt.
À très bientôt et on vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Au revoir à toutes et à tous.
Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Fou, vous êtes un salaud.